13h-14h, les courses RMC.
PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker.
Les courses RMC, Florent Gautreau.
Les courses RMC jusqu'à 14h, bienvenue à tous, bonjour à toutes et à tous, les meilleures infos épiques de la semaine, les meilleurs tuyaux du week-end, on sera en direct d'Anguin dans quelques instants, Anguin théâtre de la course du Quintet cet après-midi, mais aussi d'un groupe 3, le prix de Berlin, au programme également les courses de dimanche et de demain donc à Chantilly avec le Quintet sur le parcours de 1800 mètres, et le groupe 1 de ce dimanche ce sera le prix Jean Prat, pour lequel d'ailleurs Christophe Soumillon qui devait être suspendu a pris son joker, tous les pronos de la Dream Team dans quelques instants, et puis bien sûr nos invités, l'entraîneur Sébastien Garateau qui sera au départ du Quintet cet après-midi avec le 3 Brune des Forges et l'entraîneur de galopeur Jean-Pierre Gauvin qui présentera demain le numéro 5 Paul Carena plus le tuyau du parieur. Vous pouvez vous inscrire au 32-16 avec aujourd'hui en direct d'Anguien Fred Zermati. Salut Fred.
Bonjour Florent, bonjour à tous.
Notre partenaire le Parisien avec Alim Bouakaz aujourd'hui. Salut Alim.
Salut Florent, salut l'équipe.
Et Equidia également représenté par Guillaume Lux. Salut Guillaume.
Salut Florent, salut à tout le monde.
Et Brahim Astoum qui nous rejoindra un peu plus tard pour les pronos. On est tous ensemble jusqu'à 14h et c'est parti avec les paddocks des courses RMC.
Le paddock des courses RMC.
Et on va commencer par, on peut le dire, un coup de gueule, Guillaume Lux d'Equidia. On va parler des commissaires, des décisions controversées, notamment une, mais ça fait plusieurs fois qu'on veut en parler, parce que c'est vrai que ça arrive, on parle beaucoup de l'arbitrage, nous, en foot, sur RMC. Ben, on peut parler des commissaires aussi aux courses.
Exactement, les coups de gueule, c'est venu ma marque de fabrique, mais je pense que j'ai raison et je l'assume. En tout cas, je discute avec beaucoup de parieurs. Il va un peu dans ce sens-là. Et récemment, en l'espace de 10-15 jours, on a vu beaucoup de décisions qui étaient très litigieuses. On a vu notamment dimanche dernier à Saint-Cloud une chute. On a eu une enquête qui a duré assez longtemps. On a maintenu l'arrivée. Alors que la chute était assez grave pour le jockey, puisque Grégory Benoît est absent pendant 5 à 6 semaines. Ça a été maintenu. Ça fait
polémique. Dans le Grand Prix de Saint-Cloud, on peut s'en rappeler.
Exactement,
hein.
Dans le Grand Prix de Saint-Cloud, qui est un groupe 1. On a vu il y a quelques jours à Lisieux un cheval qui a passé visiblement le poteau au galop. Il a été maintenu. Visiblement, les commissaires n'ont pas les mêmes images que nous. En plus, il y avait un de mes confrères de pariture qui m'a dit, écoutez, c'est pas votre métier. Si vous voulez passer commissaire, passez votre brevet de commissaire, on verra plus tard. Donc encore, ça fait tâche. Et puis également du côté des juges à l'arrivée, puisque j'étais au Croisé le Roche il y a 15 jours, où il y avait photo, on a entériné une arrivée qui n'était pas la bonne. On va dire que là, ça avait gagné devant le 2. Et après, appel des commissaires France Galles, on a changé l'heure d'arrivée, c'est-à-dire que les joueurs ont été un peu les bernés de l'histoire. Donc je pense que ça fait quand même beaucoup en peu de temps. Moi, je milite. Les courses sont un sport, un grand sport. Et dans tous les grands sports, le foot, le tennis, l'athlétisme, il faut un corps d'arbitre professionnel. Je pense que ça manque. Il va falloir, à mon avis, rapidement s'y mettre, parce qu'il y a quand même pas mal de parieurs qui risquent de fuir à cause de toutes ces inepties et ces fautes d'arbitrage.
Ouais, alors c'est vrai que, pour revenir sur la première d'entre elles, ça s'est doublé d'une deuxième polémique, entre guillemets, sur la chute de Grégory Benoît. C'était sur Doha Dream, hein, c'est ça, dans le Grand Prix de Saint-Cloud. Parce qu'il avait été gêné, a priori, par Armand, propriété d'Edouard de Rothschild, qui est aussi président de France Gallo. Donc il y avait aussi, possiblement, entre guillemets, parce qu'après on peut aussi faire confiance à l'intégrité des commissaires, mais il y avait possiblement un conflit d'intérêts, on va dire, un petit peu compliqué. On peut imaginer que pour un commissaire, la pression est plus grande si... selon le propriétaire, donc ça s'est doublé aussi de cette histoire-là, mais en dehors de ça, effectivement, on a eu quand même deux chutes, d'ailleurs, dans les deux dernières grandes courses, on va dire le Prix de Diane et le Groupe 1, effectivement, de la semaine dernière. Et puis, alors, ce qui s'est passé à Lisieux, messieurs, c'est vrai que là, pour le coup, maintenant, justement, avec Equidia, avec le fait que tout le monde voit les images, hein, contrairement à une époque, beaucoup de ralentis.
Et on peut la revoir, les courses, hein. C'est Don Giovanni, le cheval.
Voilà, c'est Don Giovanni, le cheval en question. On peut les revoir même sur les sites internet et sur les replays, notamment sur Equidia. Donc, c'est vrai que là, en gros, quand tout le monde a vu la même chose, pour faire simple, et que, pour le coup, on a l'utilisation de la vidéo, parce que contrairement au foot, là, on a l'utilisation de la vidéo, les commissaires s'en servent et c'est tout à fait accepté, évidemment. C'est vrai que là, ça paraît un peu un peu bizarre.
Mais surtout, il faut voir l'impact négatif que ça a sur le parieur. Le parieur, il investit pour son plaisir ou il a envie de gagner, mais là, on a l'impression qu'on prend entre guillemets pour un con. On voit quelque chose, moi, que le cheval est au galop, et on le maintient. Et on dit à la personne qui vient leur dire, écoutez, il y a un problème. Non, vous inquiétez pas, retournez dans vos foyers, et si tu veux passer commissaire, passe ton brevet, tu me remplaceras dans quelques années.
Guillaume, tu mets exactement là le point précis, parce que dans le Grand Prix de Paris, un peu comme dans d'autres sports, il peut s'agir d'interprétation. Moi, pendant près d'une heure, j'étais persuadé que Pierre-Charles Boudot était fautif, sauf qu'on a eu la possibilité de voir la vue de dos que plus d'une heure après. Alors il faut savoir aussi que l'arrivée était entérinée très tard et que le public a pu voir les images plus de 2h30 après l'arrivée. Donc ce qui est déjà énorme par rapport à un point de vue de transparence. Mais en revanche, les deux autres exemples que tu as cités, là c'est vraiment de l'incompétence. Sur le premier, on peut un petit peu être partagé, parce que c'est vrai que c'est de l'interprétation comme tout juge ou tout arbitre dans un autre sport. Mais si ça continue comme ça, c'est vrai que c'est compliqué. En revanche, cette histoire de professionnalisation des commissaires, il faut rappeler que la France est quand même le pays où il y a des courses partout, il y a plus de 170 hippodromes, et ça va être compliqué d'un point de vue structurel de mettre des commissaires professionnels un peu partout, notamment avec la multiplication des courses PMU.
Mmh. Tout en sachant à Lim qu'on peut faire un distinguo dans un premier temps entre les réunions qui ne sont pas premium.
Absolument, pas, oui, absolument. Oui, oui.
Là, ça ne me dérange pas. Il y a quand même moins d'enjeux. Et les courses support d'enjeux nationaux avec des vrais commissaires compétents, professionnels. Mmh. Je pense que ça manque cruellement. On ne va pas citer des cas. On a eu un cas à Maison Lafitte il y a 3 semaines. Où il y avait Vélévani, un cheval de Lagacan, qui a écrasé Olivier Pellier côté cadre. Il y a eu enquête. On a maintenu l'arrivée. On se demande encore comment aujourd'hui.
Ouais. Alors, c'est vrai que ça commence à grogner. Et on a eu un billet dans Paris Turf en une, je crois que c'est hier ou avant-hier.
Ouais,
C'était hier d'un parieur lambda entre guillemets, qui a expliqué qu'il a arrêté.
Il a dit
je stoppe, parce que il avait été lui pour le coup victime de la fameuse décision qui concernait Don Giovanni Aliseu. Oui Fred.
Juste un petit point. D'abord, je félicite Guillaume de s'engager de la sorte, parce que c'est très bien. Et pour dire une chose, enfin nous les journalistes typiques, on l'a subi, tout le monde l'a subi. Lorsqu'on te demande le métier qu'on fait, on dit je suis journaliste. Dans quel milieu? Dans les courses. La première question que les gens nous posent, c'est truqué les courses.
Exact.
Voilà. Donc il faudrait essayer d'assainir l'image des courses. C'est ça qui est important.
Tu as raison.
Et que les courses, on a l'impression que c'est pas propre et on fait rien. Les courses vont pas super bien en ce moment et on fait rien pour redorer le blason des courses.
Alors tiens, tu parlais du Croisé la Roche que tu connais bien, Guillaume, d'ailleurs, et sur cette histoire de la photo qui a été mésinterprétée, on va dire, par les commissaires. Michel est avec nous. Il veut revenir sur cet épisode. Salut, Michel.
Oui, bonjour, messieurs. Merci de m'accueillir. C'est très gentil.
Bienvenue, Michel.
Écoutez, moi, je voulais intervenir sur votre radio. Le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est pas la première fois que ça arrive. Alors, quand il y a des photos qui sont un peu très serrées, très difficiles, souvent, on a l'impression, avec les images qu'il y a, où on a l'impression que notre cheval, éventuellement, qu'on a joué, avait passé le poteau en vainqueur, et puis à l'arrivée, on se retrouve seulement. Alors je me demande si les photos sont vraiment exactes ou si le photographe peut éventuellement modifier ou déplacer le poteau sur la photo. Moi je suis un peu inquiet pour l'avenir des courses, parce que les parieurs commencent à être un peu s'inquiéter de tout ça, parce que je crois que tous les gens qui étaient présents au Croisé la Roche avaient vu que Florent Guy avait remporté l'épreuve. Et je crois que c'est Mademoiselle Bogontier, Madame Bogontier, qu'ils avaient mis vainqueur, je crois, si je ne me trompe pas.
Michel, je vais essayer de répondre à ta question qui est assez précise. Oui. La caméra que tu vois, tu entends, n'est pas placée dans l'axe exact du poteau d'arrivée. Ce qui fait que ça peut être trompeur, comme Laval, il y a des hippodromes comme ça qui sont un peu pièges. Mais il est vrai qu'il y a beaucoup d'hippodromes qui n'arrivent pas à te transmettre instantanément la photo finish. Donc nous, sur Equidia, on ne peut pas vous la transmettre à vous par ailleurs. Ce qui est une chose que tu dois attendre. Parce qu'on ne la transmet pas, tout simplement. Moi, des fois, je me bats pour une photo finish et j'y arrive pas.
Ouais, alors
c'est instantané, mais où c'est très compliqué.
C'est intéressant parce que vous voyez, sur le Tour de France hier, ça s'est joué à moins d'un millimètre, je crois, sur l'arrivée du sprint. Et là, pour le coup, la photo finish, elle est consultable, elle est visible et elle fait partie.
6 millimètres,
on va dire, de 6 millimètres. Pardon, j'ai dit 0,6. Ouais, 6 millimètres. Ça fait partie de la transparence nécessaire.
Mais ça a été vite, la photo, en tout cas.
Oui, ça va, après, ça va vite. Mais c'est vrai que c'est un problème. Oui, Michel.
Et quand on voit sur un site Facebook, il y a un mouvement des parieurs, je ne sais pas si vous devez connaître, sûrement, il y avait des gens qui étaient présents sur l'hippodrome du Croisé la Roche ce jour-là, et ils étaient persuadés que Florent Guy avait gagné avec le cheval de M. Chappé. Mm-hmm. Et ils étaient persuadés que Florent Guy avait gagné, et c'est pour ça que les gens étaient présents sur l'hippodrome.
Alors c'est vrai qu'à l'heure où il y a de gros débats hein, sur les courses, pour les relancer, pour permettre à la filière de continuer à vivre et surtout aux parieurs de s'y retrouver, ça fait partie aussi de... C'est pas seulement la transparence, c'est aussi quand même la compétence.
Et là, Flo, tu veux leur dire quoi à ces gens-là? Par exemple, l'auditeur...
Michel,
a parlé. Il a parlé du mouvement des parieurs. Après, on peut débattre avec ces gens-là, mais au bout d'un moment, ils ont des arguments contre lesquels on n'a pas grand-chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est difficile de se défendre, nous qui aimons les courses. Hein, et c'est vrai que quand on dit par exemple, il n'est pas logique d'avoir maintenu Don Giovanni, il est difficile d'aller contre des vérités, bien sûr.
Ouais, mais alors c'est vraiment aussi un souci parce que pour ceux qui sont sur les différentes disciplines, la discipline du trot elle est particulière justement parce qu'elle est souvent sujette à enquête sur les allures déjà. Et c'est vrai que sur cette explication là et sur la transparence nécessaire.
Alors éduquons les gens.
Voilà, éduquons les gens aussi sur le fait que il y a une histoire quand même aussi sur la dernière ligne droite, sur le c'est dans les 200 derniers mètres, c'est ça qu'il qu'il y a parfois.
Mais il y a un nombre de foulées aussi, Flo, pendant le parcours.
Exactement.
C'est 15, Guillaume, c'est ça, je crois.
Oui, non mais ça aussi, bon, après on pourra en parler pendant des heures, mais
voilà.
Une chose que je trouve insupportable, et beaucoup de parieurs viennent me le dire, et c'est devenu en vogue actuellement au trot, c'est-à-dire que, juge aux allures, oublie au départ un cheval qui a fait plus de 15 foulées.
Exact.
Le cheval fait son parcours, et tout compte fait, après le poteau, on dira tout compte fait, on a oublié ce cheval qui va vite disqualifier. Mm. Tu reviens en arrière, rétroactivement, avec un cheval qui a faussé la course et tu le distances. C'est pas logique.
Ou l'inverse.
Tu comprends?
Ou l'inverse.
Oui.
Un cheval qu'on a oublié de distancer parce que quand même il s'est mis deux fois avec plus de 15 foulées ou très tôt dans le parcours et puis il gagne la course. Je peux te dire que le parieur qu'il a pas mis sur son ticket, qu'il voit galoper autant, il a les boules aussi. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Bon, en tout cas, c'était bien de placer le curseur sur ce problème-là et de mettre la loupe sur ces soucis-là parce que ils font vraiment partie des problèmes concrets de ce que connaissent les parieurs, de ce que ressentent les parieurs et des fois du ras-le-bol un peu qu'il peut y avoir. Allez, le deuxième paddock, on va aller sur le plat maintenant avec Fred Zermati pour le retour d'un jockey. C'est vrai qu'on ne voyait plus trop sur les programmes et qui est là, c'est Anthony Krastus.
Oui, exactement. Anthony Krastus qui était parti aux États-Unis et qui est revenu en France. Et depuis son retour en France, il a une association avec Philippe Sogorb. C'est un très bon contrat hein, parce que Philippe Sogorb, c'est un entraîneur qui gagne beaucoup de courses. Et je voulais donner un petit coup de chapeau à Anthony Krastus parce que depuis qu'il est revenu en France, il a une très belle réussite et je trouve sympathique de retrouver nos jockeys qui se sont exilés. On peut penser également à Thomas Huet qui est revenu également. Voilà, moi je voulais donner un petit coup de chapeau à Anthony Krastus et dire un petit cocorico et dire que ça faisait du bien de les revoir.
Et on l'invitera d'ailleurs dans les concerts MC parce qu'il nous parlera comme ça de son expérience et de ce qu'il a appris parce qu'on gagne aussi en expérience en voyageant. Et c'est effectivement une bonne idée.
Et là où Frédéric a raison, Florent, excuse-moi, c'est que en fait Philippe Sogorb, il a une écurie qui se développe d'année en année avec la réussite qu'on voit quels que soient les niveaux. Alors certes, il avait des jockeys entre guillemets un petit peu attitrés pour les jours de course, mais il avait personne avec lui d'aussi expérimenté qu'Anthony Krastus au quotidien. Et je pense que là, c'est vraiment un couplet.
D'avoir tous les matins un cheval, voilà. C'est quelque chose.
Ali, tiens, justement, garde la parole pour nous parler de ton paddock. À toi, tu veux nous parler de la fête qu'on va avoir le 14 juillet.
Eh ben, écoute, on viendra pas chez toi. On viendra pas chez toi, mais pas très loin.
Pas loin, ouais.
Pas loin, ouais. Donc, parce que je fais l'after ce soir-là. Donc, mais après l'after, je peux rejoindre les podcasts.
Non, on aura fermé quand tu voudras venir.
Non, je pense que tu auras le temps. Tu auras le temps d'arriver. Mais en tout cas, on parle souvent d'un petit peu des hippodromes un petit peu déserts où l'ambiance n'est pas toujours très festive. Mais c'est vraiment ce 14 juillet. Alors que, donc, c'est à Longchamp habituellement. Mais évidemment, l'hippodrome de Longchamp ne rouvrira qu'au printemps prochain. Donc, c'est à Saint-Cloud depuis 2 ans. Et c'est vrai que c'est un moment incontournable. C'est-à-dire que c'est l'heure idéale. L'heure idéale pour venir aux courses en famille parce que c'est une semi nocturne, parce qu'il y a beaucoup d'animation et puis ensuite ceux qui veulent rester pour fêter le 14 juillet avec feu d'artifice et le reste pourront venir. Donc c'est vraiment une date vraiment très intéressante
et ça fait du bien aux courses.
Ça parce que là on touche un autre public d'ailleurs justement qui vient pour la fête et qui découvre parfois cet univers et l'envie de voir les chevaux, de parier.
Tout à fait, Florent, et puis toi qui connais un petit peu qui connaît un petit peu la Provence.
Les lieux,
oui, évidemment, la Provence, mais c'est le genre d'événement qui est assez rare en région parisienne, donc il faut en profiter, venez nombreux.
C'est vrai, alors d'ailleurs, en Provence, à l'inverse, parce qu'on parlait des hippodromes qui parfois sont un peu déserts, là, en Provence, c'est à chaque fois des rendez-vous marquants, hein, que ce soit Vichy, à Cabourg, là, on les remplit, les hippodromes, ouais, c'est très festif, avec un accès, on va dire, au moins visuel aux chevaux assez facile, donc c'est vrai que c'est plutôt sympa de le souligner.
Et puis ceux qui seront pas chez toi, le 14 juillet, c'est la journée de l'année où il y a le plus d'hippodromes en activité. Donc,
c'est pas le jour où tu fais barbecue,
Flo,
bah écoute, si, mais
alors. Tu peux inviter les gens, leur donner ton adresse.
Alors voilà. À la sortie d'hippodrome, on va flécher, et puis je vais les récupérer chez moi. Mais voilà. Bon, par contre, je vais faire payer l'entrée, comme ça sera bien, parce que c'est normal, tu comprends. Après, il faut refaire la pelouse, après, c'est compliqué. Alors moi, j'ai juste un petit coup de cœur dans mon paddock, coup de cœur. Je voulais souligner la performance d'un tandem, François Nicole et Gaëtan Mazur, qui, mardi, à Clairefontaine, ont fait ni plus ni moins qu'un coup de 5. On le souligne souvent, évidemment, que François Nicole est particulièrement adroit. Et là, ça s'est très très bien passé pour eux deux sur ce tracé coulant de Clairefontaine. Et je voulais juste le dire, parce que là, pour le coup, pour des parieurs, statistiquement, faut le savoir. Pour ceux qui...
C'est d'autant plus rare, Florent, que c'est un obstacle. Un obstacle, c'est compliqué. Hein.
Ouais, exact.
De faire un coup de 5, je crois qu'il avait 10 partants. Il a gagné 5 courses et fini deux fois deuxième. C'est un exploit qui est assez rare ici, mais il faut le préciser.
Voilà pour les paddocks. Dans quelques instants, on va filer du côté d'Anguin et on va retrouver Sébastien Garato, l'entraîneur évidemment d'un cheval qui est au départ du Quintet Bonne des Forges, mais l'entraîneur de Bold Eagle. Pour ceux qui connaissent pas parfaitement l'univers des courses, il est tout simplement l'entraîneur du crack actuel du trot, j'allais dire français, mais sans doute mondial. On va en parler évidemment avec lui, et puis il y aura tous les pronos pour les deux quintets du week-end. À tout de suite.
13h-14h, les courses RMC.
PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker.
13h-14h, les courses RMC.
PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker.
Les courses RMC, Florent Gautreau.
On est ensemble jusqu'à 14h. On va parler tout à l'heure de Chantilly. C'est le quintet de demain et c'est du plat. Mais on reste dans le domaine du trot pour l'instant, puisque les courses ont lieu à Anguien aujourd'hui, théâtre de la course du quintet. Cet après-midi, on est avec Fred Zarmati en direct d'Anguien, avec Aline Boicaz du Parisien, avec Guillaume Luix d'Equidia et avec Sébastien Garato, qui est le premier invité des courses.
RMC, l'invité des courses.
Bonjour Sébastien Garato.
Oui, bonjour.
Il est là, l'entraîneur de Bold Eagle. Alors je disais, parce qu'on a des auditeurs qui sont des turfistes avertis, et puis on a aussi des gens qui connaissent un peu moins les courses. Vous êtes ni plus ni moins que, on va dire, j'allais dire le Zidane actuel, c'est-à-dire qui est l'entraîneur du Real, champion d'Europe. Vous êtes un peu l'entraîneur du crack actuel, Bold Eagle, et j'imagine que ça, c'est quand même... Quand on devient entraîneur, on le sait pas au départ, c'est quand même le rêve d'une vie, Sébastien.
Ouais, ça fait plaisir d'entraîner un cheval comme ça. Moi, j'ai eu la chance d'entraîner des top chevaux, mais celui-là, il est vraiment au-dessus de la moyenne, quoi.
Ah,
et
oui.
Ça fait déjà, je sais pas, les gens qui regardent les courses, ils ont jamais vu ça, quoi. Il gagne à chaque fois pratiquement, et puis tout le monde l'aime bien, donc c'est super.
Voilà, il y a une grande popularité, parce qu'on rappelle que la petite différence entre les galopeurs, mais la grande différence avec les trotteurs, c'est que les trotteurs ont une carrière longue, que les gens s'attachent à eux, et puis en plus, avec les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de choses qui ont été créées autour de Bold Eagle. Comment va-t-il déjà là depuis sa dernière victoire?
Bold va très bien, il s'est reposé là pendant 8 jours, il a fait pas mal de paddocks et puis de promenades. Et là je vais commencer à le retravailler pour le préparer la course du 5 août à Mons, c'est en Belgique. Mm-hmm. C'est encore un groupe 1. Et ensuite il courra je crois que c'est le 5 septembre à la finale des Masters à Vincennes.
On va le retrouver à Vincennes en septembre. Alors un mot pour ceux qui sont fans de sport, parce que c'est l'athlète, hein, le cheval. Comment on fait pour savoir s'il a récupéré ou pour le faire récupérer, disons, c'est quoi le business d'un entraîneur pour alors déjà je sais qu'il faut savoir s'ils ont bien mangé, s'ils mangent bien, c'est un indice déjà pour les chevaux.
Voilà, forcément comme ils ne parlent pas, donc on regarde vraiment mais moi j'ai les pèses aussi les chevaux, donc je regarde s'il a pas perdu trop de poids. Surtout celui-là, hein. On les pèse pas tous dans l'écurie, mais les meilleurs, on les pèse.
Et ensuite, par exemple, lui, son poids de, entre guillemets, là, c'est quoi, pour avoir une idée?
520 kilos.
520 kilos, d'accord. Voilà.
Et ensuite, donc, s'il mange bien, on fait des prises de sang. Mmh. Et puis ensuite, on le met beaucoup dehors, qui récupère mentalement. Et, on l'amène au vétérinaire, voir s'il n'y a pas d'ennuis de santé au niveau des jambes, tendines et compagnie. Mmh. Au niveau du dos aussi. Et ensuite, il a pas mal de, il y a une masseuse qui vient le masser deux fois la semaine. Et après, une fois que tout est en règle, on peut le retravailler.
Très bien. Et 520 kilos, c'est un petit peu la même chose que Fred Zermati, en fait. Enfin, à peu de choses près. On n'est pas très, très loin sur la, sur la, sur la balance. Je le dis parce qu'il peut pas répondre. Il a plus le micro. On va évidemment revenir sur le quintet, messieurs, avec Sébastien Garato. Il y a plein de partants, d'ailleurs. Hein. Il y a plusieurs partants. On reviendra sur les autres. Mais d'abord, le quintet, Sébastien. Le 3, Brune Desforges. Qu'est-ce qu'il faut en dire? Est-ce qu'on peut le mettre sur un ticket?
Je pense qu'on peut le mettre parce qu'elle avait gagné ici en se baladant, en rendant 25 mètres. Et la fois qu'elle est 6e à Vincennes, elle est enfermée. Elle a pas pu sortir et elle aurait pu gagner pareil. Donc le défaut avec elle, c'est le départ. Des fois elle part très vite ou elle part au galop.
Ah oui. Donc, ouais, elle a été très très malheureuse la dernière fois.
Voilà. Donc après, vu l'eau, il y a quand même des très très bons chevaux. Ça, les cinquièmes, ce sera déjà bien.
Ouais, d'accord. Pense. Un quintet, mais voilà, il y a du. Justement, vous regardez les adversaires, vous avez, je sais pas, remarqué peut-être quelques chevaux à conseiller. À...
Voilà, la jument, le 11, Usage Osselin, je pense que c'est la jument à battre. Mm-hmm. Le cheval à Sylvain Roger, si, bonne du dollar, c'est pas mal.
Ouais.
Et puis, puis voilà, je vois David Thomas aussi.
David Thomas, Violine Morothèse de 14, effectivement. Et au niveau forme, là, pour ce qui est de Brune Desforges, en revanche, elle est bien?
Elle est superbe. Elle est en super état, elle est en super condition, donc je pense qu'elle devrait faire sa course.
Bon, ouais. Très bien. Voilà pour Brune Desforges. Dans la Réunion, Dumbledore, le 104, déféré des 4, c'est d'ailleurs à 14h05, hein, d'ailleurs, pour ceux qui veulent y aller. Qu'est-ce que, et le 105, d'ailleurs, Désiré Desforges, pardon, j'ai oublié, de partant dans cette course.
Ouais, ma meilleure chance, c'est le 4. Hein. C'est ma meilleure chance de la journée pour gagner. Donc voilà, il s'était baladé, monté le coup d'avant. Et l'autre jour, attelé, il a fait une faute, on ne sait pas trop pourquoi. Mais autrement, avant, c'était premier, deuxième à chaque fois. Donc le cheval, c'est ma meilleure chance de la journée pour gagner une course aujourd'hui.
Bon, bah voilà, c'est déjà bien parce que c'est dans 30 minutes. Dumbledore, le 4 déféré des 4, Mathieu Abrivard. Oui, Alim.
D'ailleurs, j'avais une question à poser à Sébastien parce que c'est quand même, en plus d'être quand on est entraîneur, on est aussi un chef d'entreprise et il faut savoir que sur l'espace de deux jours, Sébastien, vous avez 14 partants répartis un petit peu partout en France. Comment on organise cette grosse mécanique pour que tout le monde parte à l'heure, pour avoir assez de personnel, pour avoir des pilotes, parce qu'ils sont pas tous aux mêmes endroits. Est-ce que c'est vous qui gérez ça tout seul ou vraiment il y a tout un petit secrétariat autour de vous?
Moi j'ai un secrétariat, il y a une vingtaine de personnes. Donc j'ai 3 sites d'entraînement.
Moi j'ai trois sites, d'accord.
Ouais, j'ai un site que je gère moi. Et j'ai 2 autres sites où il y a des gens qui gèrent aussi l'écurie, ils me rendent des comptes. Et après j'engage les chevaux. J'ai pas mal de camions et puis après on organise suivant les personnes qui sont avec moi. Et puis donc j'en envoie 3 par en mettant 3 à Vichy, 6 aujourd'hui. Donc voilà, c'est.
Alors par exemple, 14 partants, c'était quoi sur 2 jours, tu disais, Ali?
Entre aujourd'hui et demain, oui, 14 partants, 6 hippodromes différents.
Alors 14 partants, 6 hippodromes différents, à partir de combien, de quelle place, on va dire, de quel bilan on est satisfait, Sébastien? Il faut au moins une victoire là sur 14 partants.
Ah oui, ça va aller, Florent, à mon avis.
Ouais, j'en compte en gagner moins 4-5 quand même, j'espère.
Voilà. Donc le ratio, c'est un peu ça, quoi. Si on a 5 victoires par exemple sur les 14, déjà là, c'est
un beau super week-end. Ratio, là, je pense.
Ouais, c'est un super ratio, ouais, effectivement. Un petit mot, tiens, avant de refaire le déroulé comme ça des courses quand même, parce que vous venez pas, comme beaucoup d'ailleurs de vos confrères, n'est pas du milieu, on va dire vraiment ni de la région qui est la région ouest pour faire très large. Vous venez du sud-ouest, vous, hein, vous êtes originaire de Bordeaux.
Oui,
et vous êtes monté comme ça en Normandie. C'est quoi votre amour des chevaux très jeune qui vous a poussé à faire ça?
Pas tout à fait. J'avais 15 ans. Après, je sais pas trop quoi faire. Donc ma mère était pharmacienne, mon père il travaillait sur le port de Bordeaux. Il allait souvent en course à Bordeaux. Et donc on s'est renseigné pour faire l'école de jockey. Donc je suis parti dans la Manche à Graignes, c'est l'école de trop. Et puis après je suis jamais revenu chez moi.
Ouais.
Je suis passé professionnel à 20 ans.
Vous êtes passé entraîneur très jeune, hein.
Ouais, 20 ans, et puis je me suis installé aussitôt.
Et puis,
à mon compte, et puis j'ai loué des box. Enfin j'ai galéré pas mal de temps. Et puis là ça fait déjà 12-13 ans que ça carte.
Et puis Florent, on parle souvent de belles promotions dans le sport. Sébastien, si je dis pas de bêtises, vous êtes partie de la même promotion que Franck Anne, que vous avez côtoyé un petit peu
à vos débuts. Bazir, puis Sylvain Roger là qui court tout à l'heure, enfin des. Ouais, c'est une belle promotion.
Tu vois Florent, c'est mieux que la génération 87 au football.
Ouais,
on était 80, hein, on est plus que 56.
Ouais, ouais. Alors c'est pas tout à fait le même âge, mais effectivement, t'as raison. La génération 87, ils ont un peu explosé en vol pour certains, alors que là, ils cartonnent. Et tiens d'ailleurs, j'avais lu, tiens Sébastien, autre question, que vous auriez pu être cuisinier, c'est vrai ça?
Quand on est jeune, on veut faire pompier, cuisinier, on veut tout faire, quoi, en fait. Donc, ouais, bon, voilà.
C'est vrai qu'entraîneur de trotteur, c'est moins fréquent, quoi, disons.
Quand et Sébastien, c'était quoi le déclic? C'était quoi le cheval qui vous a fait basculer du statut de petit entraîneur à grand entraîneur? Et c'est quoi vraiment le cheval qui vous a lancé, qui a lancé votre carrière?
Tout début, le premier cheval que j'ai débourse, c'est Granit de Montfort. C'est un cheval que Louis Verbeck, qui m'a fait gagner 5-6 courses à Vincennes. Donc déjà, j'ai eu de la chance. Et le, vraiment, le meilleur que j'ai touché en arrivant, c'était Prince d'Espace, qui a gagné 800 000 euros, qui avait gagné 7-8 groupe 2, qui courait avec Pearl Queen à l'époque. Mm-hmm. Et c'était le leader génération à 3 ans, à 4 ans. Et c'est celui qui m'a vraiment lancé. Après, j'ai eu Olga Dibiouetz, Rapide Lebel, Roxane Griffin, tout.
Florent, le tableau serait pas complet. On dit souvent que la chance serait aux audacieux, mais il faut rappeler que Sébastien Guérateau, en tant que propriétaire, un obstacle, est quand même président de la République.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a, c'est vrai qu'il y a la Kazakh aussi.
Il y a de l'Orosa. Ouais.
Exactement. Bah, c'est bien de le souligner. Juste très rapidement sur les autres partants de la journée, au moins du côté d'Anguien, le 407 dans le Prix de Berlin, le groupe 3 Eridan, Eridan, je sais pas
oui,
si.
Eridan, ouais. Eridan. Il fait une blague. Non, il fait une rentrée, c'est un super choix. C'était le leader de la génération à un moment. Et le choix, il revient bien. 7 autostars, on va essayer de faire la ligne droite et en finissant 4-5e, ce serait déjà pas mal.
D'accord. Et le 500.
Pardon, ouais, pardon, vous pensez, Sébastien, qu'il va manquer d'une course parce que c'est quand même le favori de l'épreuve?
Ouais, mais c'est 2100, je pense qu'il est en super condition. Il faut le parcours, je peux pas aller devant. Donc il va être obligé de subir, mais la ligne droite est longue et s'il peut passer sa pointe de vitesse, c'est pas mal.
Bon, alors à surveiller le 511 Crystal River.
Ça, c'est une chance aussi, mais c'est un cheval qui gagne jamais. Il est tout le temps à l'arrivée pratiquement. Donc, pareil, il peut être dans les 5 premiers.
Et le 612, enfin, Duc du Gers avec Eric Raffin.
Ce sera pareil que Crystal. Mm-hmm. Il peut être dans les 5 premiers.
Très bien. Voilà. Bon, ça fait pas mal quand même de belles cartouches. Merci Sébastien d'avoir été avec nous.
De rien.
À bientôt. Et puis, voilà, une petite caresse à Bold Eagle parce que vraiment tout le monde l'adore et il n'y a pas que lui évidemment. Mais c'est un peu la star. Il y a pas de sécurité autour de lui. Comment ça se passe là? Vous avez des caméras? Vous avez quoi?
J'ai des caméras qui filment constamment chez moi toute la journée. Après, bon, là, on joue au-dessus des chevaux, quoi.
Il appelle,
on
sinon.
On surveille.
Ok, merci beaucoup, Sébastien, d'avoir été avec nous. Allez, maintenant, on va parier sur le quintet de cet après-midi. Bah, justement, on en a parlé un peu avec Sébastien. Le prix de la manche, 2875 mètres, deux poteaux de départ. Il y a trois chevaux qui sont à 2900 mètres. Allez, les paris avec, pour commencer, celui de Brahim Asnoum. Salut, Brahim.
Salut tout le monde.
Alors Brahim, bon, c'est quoi ton cheval, ton pari pour cette troisième course à Anguien?
Là, pour moi, je vais vous conseiller le 14, Violine Mourotez. Je la trouve en pleine forme actuellement. Elle bénéficie d'un engagement sur mesure, à la limite du recul. Donc sans incident, je pense qu'elle peut lutter pour les premières places.
Très bien, Brahim, ce sera le 14, Violine Mourotez. Moi, je suis assez d'accord, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que limite du recul, je vérifiais. C'est pas mal. Guillaume Lux, d'Equidia.
Bah écoutez, moi, comme ça, en apparence, je trouve que c'est un quintet qui est réservé aux favoris. Hein. Je pense que Sébastien Guérateau a bien fait le papier, a bien fermé les premières chances, je les ai évoquées tout à l'heure. Écoutez, pour une cinquième place, moi, je vais re-signer le numéro 8, Glenord Superbe. Le 3 jours, je l'avais donné, il m'a déçu, il n'était que 6e. Maintenant, Vincent Martin, si que le cheval est bien, il sera peut-être une piste 4. Pour une 4-5e place, c'est possible, à une cote spéculative.
Ouais, c'est pas mal. Alim Bouakas du Parisien.
Mais je vais tenter un coup de poker avec une jument plus confirmée qui a couru au plus haut niveau, autre montée, c'est le numéro 4, Begum Fromentro. L'écurie Lévesque revient au mieux. Lors de sa dernière sortie, sans sa faute, j'aurais bien aimé voir où elle aurait fini parce que, à mon avis, elle aurait pas été loin du compte. Donc, je la reprendrai dans cette épreuve, le numéro 4, Begum Fromentro.
Fred Zermati.
Bah, moi, écoutez, je vous donnais un cheval pour une petite cote. C'est la meilleure chance des 25 mètres, c'est le numéro 15, Atout du Lair. Voilà, pour la victoire, ça me paraît compliqué parce qu'il y a du monde devant, mais il va y avoir du rythme théoriquement dans cette course. Et c'est un cheval qui a une pointe de vitesse redoutable et qui devrait très bien faire. Et puis il y a quasiment 20 contre 1, donc je trouve que c'est un bel outsider.
Ah oui, et puis comme Fred, ce cheval a fait un long passage dans le sud-est, notamment à Cannes-sur-Mer. Ça l'a fait le plus grand bien, comme Fred Zermati.
Oui, exactement. Et c'est vrai que.
Vous pensez vraiment qu'on pourra rendre 25 mètres?
Moi, je crois pas. Mais
pour
bon,
une cinquième, Guillaume, il va y avoir du rythme et il a une bonne pointe.
Justement, si ça marche, on va dire un chrono canon derrière, ça dure
dans 25 mètres. Oui, mais tu l'as dit, Guillaume, les favoris, après, il y a des favoris qui se détachent, mais derrière, pour les places, il y a peut-être une petite place. Hein, disons, c'est
en
pour
plus,
sortir
plus,
des sentiers battus.
Il y a une longue ligne droite.
Moi, je l'aime bien, mais l'engagement n'est pas extraordinaire. La course, le recul est appelé à 340, il a 380.
Oui, je sais bien.
C'est-à-dire pour 30 000, il rend 25 mètres.
C'est la dernière fois qu'il fallait le jouer, parce qu'il a été là, effectivement, sur sa dernière course. Allez, le tuyau du parieur, maintenant, avec François.
RMC, le tuyau du parieur.
Salut, François.
Salut, messieurs.
Alors, quel est ton cheval et celui que tu vois à l'arrivée?
Guéline Mourotez a gagné en 19 à Laval dans l'une des plus belles épreuves du GNT. Hein, tous les ans, c'est la plus belle épreuve. Mm-hmm. Elle battait jour-là Virgiose du Madura, Betty Malone et compagnie. Aujourd'hui, l'eau pense que c'est aussi dans ses cordes. Ça va marcher très vite. Il y a du train. Pour marcher 12-9 à Laval, faut être un chien. Il faut être un bon cheval. Mm-hmm. Donc, je pense qu'en plus, à une droite d'Anguin, c'est un peu le bout du monde pour certains chevaux. Pour elle, ça va l'avantager. Donc, pense qu'elle peut battre Ivanova.
Le 14, voilà, c'est ça. Parce qu'en gros, l'idée, on l'a senti dans les propos de Sébastien Garato, c'est peut-être le 11 qui va, c'est le 11 qui va être favori, hein, d'ailleurs, Isa Josselin, j'imagine.
Oui, ce qui serait.
Ouais, il y a 2,50.
Ce qui est tout à fait logique.
Ah ouais, d'accord. Et donc, le 14, d'après toi, François peut la battre. Allez, qu'est-ce qu'on fait, Fred, pour François? Parce que là, il faut qu'il soit dans les trois premiers, au moins, j'imagine.
Pourquoi moi? C'est toi le patron aujourd'hui.
C'est moi le patron, bah alors bah je vais
oui.
dire. Je vais dire.
Parce que moi, je vais être très sympa, donc.
Alors moi, je vais être. Non, si j'étais très dur, j'irais dans les deux. Je vais dire dans les trois. Dans les trois, voilà. Quand même. Parce que bon, voilà. Mais normalement, ça devrait le faire. François, là, je te fais un cadeau, hein. Parce que ouais, toi, tu le vois gagner.
Bah, Fred m'aurait dit dans les 7, mais bon, on va rester pour toi.
Non, dans les 7, c'est pas bon, j'aurais dit dans les 5, moi, voilà. Parce qu'après, je me serais fait engueuler.
on donne pas des quintés en 8, hein, on 10. Hein. Merci François, en tout cas.
Merci
et si le 14 est dans les 3, allez. Tu reviens la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a d'autres infos à donner? Moi, j'adore ce 14, hein, Violine Morotès, j'adore David Thomas, donc je suis 100% d'accord sur ce choix-là. Est-ce que, tiens, d'ailleurs, au passage, ah tiens, j'ai une petite cote. Je crois que j'ai une énorme cote.
Oula.
Ouais, alors attention, le 2, Blooma des Riprès.
Alors, imagine-toi que j'ai vu Bernard Piton en arrivant.
Merde,
sur
ça a porté malheur.
Mais pourquoi? Non.
Enfin, je déconne.
On la connaît, Blooma des Riprès. Hein. Elle est très spéciale.
Très spéciale.
Mais l'autre jour, c'est pas de sa faute. Elle a des circonstances. Et pour une grosse cote, je suis assez d'accord avec toi. Elle peut-être venir prendre une
cinquième place. Alors pour la cinquième place. Et alors, j'ai regardé. Je crois que c'est deux disqualifications. C'est corde à droite.
Ouais, mais
dernière. Et là, c'est corde à gauche, donc je me suis dit.
Mais elle est compliquée. Voilà. Il lui faut pas grand-chose pour faire la faute. Hein.
C'est clair. Enfin ouais. Voilà.
Et puis Florent, pour compléter la sélection, parce que là, on a vraiment fait le tour des meilleures chances de l'épreuve. Attention,
parlé,
exactement. Attention, numéro 9, Bess Bissonnet.
Confié
à Franck Nivard, qui excelle sur la piste d'Anguin. Alors fou. un peu comme ton petit coup de cœur, Blooma des Riprès. Il faut pas être cardiaque avec ce Bess Bissonnet, mais à l'issue d'un parcoursage, il a sa place dans les sacs.
Bah voilà, Bess Bissonnet, c'est parfait. Ça nous fait un bon quintet avec évidemment donc ce 11 qui sera le favori. Mais nous, on vous a conseillé le 14 avec Brahim Asloum. Le 8, c'est le cheval de Guillaume Lux, Glenold Superbe. Le 4, Alim Wakaz, Begum Fromentro. Le 15, Atout du Lair, pour plutôt une cinquième place. Et on peut rajouter effectivement le 2 et le 9 pour compléter la sélection. Dans quelques instants, on va filer du côté de Chantilly. On va retrouver notre invité Jean-Pierre Gauvin et on va faire nos pronos pour le quintet demain, dimanche. A tout de suite dans les courses RMC.
13h-14h, les courses RMC.
PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker.
Les courses RMC, Florent Gautreau.
Les courses RMC, la dernière ligne droite avec Fred Zermati en direct d'Anguien avec Alim Bouakas du Parisien, Guillaume Mix d'Equidia. Et puis tout à l'heure, on retrouve Brahim Asloum pour les pronos évidemment de notre quintet de demain. Et justement, pour notre quintet de demain, c'est l'heure de notre deuxième invité des courses RMC.
RMC, l'invité des courses.
Jean-Pierre Gauvin est avec nous. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Entraîneur de Paul Carena qui sera demain le numéro 5, hein, c'est ça, dans le quintet. Bah, tout de suite, la question sur Paul Carena. Une bonne chance dans ce quintet demain à Chantilly?
Une bonne chance, c'est difficile à dire. C'est une jument qui, avant sa dernière victoire avec Sébastien, était en 35 de valeur. Et qu'on pensait barrer, enfin, plus de marge à ce niveau-là. Et maintenant, elle a pu quand même gagner un handicap avec l'aide de la décharge de son apprenti à l'occasion Elora Sieslik. Donc, ça paraissait encore logique. On a pris 2 kilos de pénalité. En 37, ça devenait à notre goût compliqué pour les handicaps, mais il fallait bien le tenter. Alors on a eu le choix à ce moment-là d'aller sur le Grand Prix d'Aix-les-Bains ou d'attendre ce quintet de Chantilly. Finalement, on a opté pour Aix-les-Bains et où elle s'est remarquablement comportée en finissant une encolure d'un cheval en 44 de valeur. Donc, elle faisait en théorie une valeur supérieure à ses 37 de valeur ce jour-là. Et ayant très très bien récupéré la jument en pleine forme, ben finalement on a décidé d'être gourmand et de quand même courir ce quintet de Chantilly parce que on profite de la forme de la jument. C'est une jument d'âge endurcie qui récupère très vite quand tout se passe bien. C'était le cas les dernières fois. Elle a pas eu de course dure avec son apprenti. Des vraiment des bonnes leçons. Et donc ça peut nous laisser quand même de l'espoir sur la forme de la jument. Mais bon, il y a quelques semaines encore, j'aurais dit en 37, ça paraît compliqué. Mais là, cette course s'adresse en cas des femelles sur la forme de la jument. Ben pourquoi pas.
Alors Flo, Ouais, salut Jean-Pierre. Précisons une chose, c'est que pour que ce soit clair pour les auditeurs, parce que si on se dit qu'un deuxième de Giannard a battu de très peu, qui est en 44 de valeur, ça on dit même en 37 déclassé. Mais tout de même, Paul Carénard recevait 6 kilos de Giannard hein, ce jour-là.
Absolument.
Donc faut tout relativiser. Voilà.
Tout
et avec
les
2 kilos, je suis d'accord avec Jean-Pierre, ça laisse moins de marge. Ça lui laisse une chance, mais moins de marge.
Ouais, absolument.
Et l'accord de 1 dans cette épreuve avec ce parcours, est-ce que ça a une importance?
Oui, c'est mieux d'avoir l'as que le 16, c'est évident. L'idéal aurait été d'avoir un numéro à la corde, mais pas aussi près de la corde, pas l'as. Le 4, 5, 6 aurait été idéal, parce que c'est une jument qui, peut-être, et encore c'est relatif, n'aime pas être trop enfermée à la corde. Elle préfère, mais comme c'est vrai pour beaucoup de chevaux aussi, quand on est en deuxième épaisseur, on fait pas trop de chemin, ça laisse le choix de pouvoir se dégager quand on veut. Mais elle est peut-être un peu, entre guillemets, grosse claustro et trop enfermée, elle peut le craindre. Mais c'est quand même un bon numéro. Si la piste reste bonne.
Ah oui, c'est ça. Condition, le terrain. Voilà. Le terrain, c'est quoi pour elle?
Il faut absolument du bon terrain. C'est une jument qui adore le sable et qui va très bien sur le gazon, mais en bon terrain. Quand ça s'assouplit trop, elle aime pas. Mais on l'a vu bien faire en terrain souple, mais il faut absolument pas du lourd. Je pense pas que ce sera le cas.
Ce sera pas le cas parce qu'a priori c'est soleil hein, pour le week-end sur la région parisienne. Donc effectivement le terrain va rester bon. Vous avez regardé un peu vos adversaires dans cette course pour savoir vous avez fait le papier un peu pour voir quel pourrait.
Non, je vous avoue que j'ai pas eu le temps.
Bon alors c'est nous qui allons vous donner tout à l'heure les autres bonnes chances. En termes de on va dire de fatigue ou de forme physique, elle traverse de la ligne belle période de forme. Hein.
Ouais. Vraiment, je crains pas le fait qu'elle court rapprochée. J'aime pas le faire habituellement, mais dans certains cas, un cheval qu'on sent en forme et dont on sait qu'il récupère bien, ça peut être un plus. Sur la lancée de la forme, on fait un entraînement minimum. Et c'est là qu'on est même plus sûr que le cheval donne sa pleine mesure.
Ouais.
Et ce sera le cas de Paul Carina.
Vraiment, bon, c'est déjà bien. Déjà,
plutôt un plus. C'est la pleine forme.
Jean-Pierre, Aline Boicaz, du coup, on parle souvent, alors c'est un petit peu du jargon, on parle de chevaux saisonniers qui sont plus à l'aise à certaines périodes de l'année qu'à d'autres. On a vraiment l'impression que c'est le cas de votre pensionnaire.
Oui et non. On l'a vu déjà gagner à Cagnes-sur-Mer en plein hiver. C'est vraiment une jument qui a une forme stable et constante. Et c'est des petits soucis passagers qui m'ont à l'occasion obligé à lever le pied. Mais c'était vraiment le hasard et occasionnel. J'ai jamais eu à décider de la ralentir parce qu'on la sentait fatiguée ou peu de temps. Mmh. Mais indépendamment complètement de la saison.
Ouais, ce sont les aléas du quotidien.
Voilà. Mais vraiment, je l'ai vu en très belle forme, que ce soit en hiver comme en été. Mmh. Maintenant, comme tous les chevaux et encore plus les juments, elle est actuellement dans sa robe de mariée, comme on dit, un poil magnifique. Et on ne peut pas espérer avoir un cheval dans le même état en plein hiver.
Eh ben, faut se marier demain, le dimanche à Chantilly, il y a pire. Hein.
Oui, c'est sûr.
Rapidement pour Jean-Pierre, dans quelques semaines va débuter la grande semaine du galop à Vichy. Est-ce que pour les auditeurs, vous pourriez me donner le nom d'un cheval que vous auriez réservé, préparé pour cette grande semaine?
Réservé, préparé. Non, maintenant, et de plus en plus, on doit choisir des engagements très précis pour les chevaux. Et à Vichy, ils ne vont pas forcément trouver pile poil la course qu'il faut. On suit le programme tout au long de l'année et moins qu'avant, on réserve des chevaux pour ça parce que le programme nationalisé fait que ce serait pas forcément une bonne stratégie. Maintenant, y a quand même des chevaux qui vont venir en forme à ce moment-là et qui ont le bon engagement. Mmh. Voilà, je pense qu'on peut citer par exemple un poulain qui s'est imposé pour son premier handicap à Lyon-Paris, Souvigné, qui n'a pas été trop pénalisé. Il a pris 2 kilos. On va le voir certainement à la deuxième épreuve du Quintet. Et donc,
on va retenir ce nom.
Voilà.
Il a été plaisant à Lyon, j'y étais.
Ouais, bah souligné, voilà, et... voilà pour ceux qui veulent cocher.
Voilà, il faudra du bon terrain. Mm-hmm. Christophe Soumillon, ce jour-là, qui le montait, m'a dit qu'il pensait que le poulain avait encore de la marge. Il a un peu mis du temps à trouver ses marques et à se façonner. Mais là, il est en pleine forme. Et lui, oui, on l'a gardé pour ça.
Ok, ben merci. Jean- merci Jean-Pierre Gauvin d'avoir été avec nous.
À bientôt.
Et bon, bonne chance pour demain du côté de Chantilly. On rappelle que c'était l'entraîneur de Saunois, pour ceux qui s'en souviennent, oui, le cheval Guy du Boulanger, qui avait gagné le Jockey Club et qui avait été un petit peu hâtivement mis un des favos du prix de l'Arc de Triomphe. Ça avait été beaucoup plus compliqué, avec notamment une question de terrain. Mais voilà, pour ceux qui s'en souviennent, c'était Saunois, le cheval du fameux Boulanger, et Pascal Trèves.
Pascal Trèves, hein, ouais,
et d'ailleurs, ses premiers produits sont en piste et donnent satisfaction à Jean-Pierre.
Ah bah parfait. Et ben voilà. Allez, c'est parti sur les pronos, messieurs. On retrouve Brahim Assoum pour le prono donc du quintet de demain. On l'a dit, 1800 mètres à Chantilly. Brahim, ton cheval pour demain.
Alors pour mon cheval, ça sera le numéro 3. 6 vies, désormais deux courses dans les jambes. Et je pense qu'il peut ouvrir son palmarès ce dimanche.
Bah, très bien, merci Brahim. Le 3, Tisvi, qui aura d'ailleurs, puisqu'on parlait de corde, une bonne corde aussi, la corde de Tony Picon sera le jockey. Guillaume Lix, c'est qu'il y a.
C'est une jument qui est assise, c'est le numéro 4, c'est Sans Peur, qui vient de faire une bonne rentrée. Maintenant, c'est entraînement de Stéphane Vatel. Stéphane Vatel prépare son meeting à Deauville, puisqu'il entraîne à Deauville. Deauville, ça commence dans 3 semaines. Donc Sans Peur, celui-là dimanche, je crois qu'elle peut être placée et qu'elle va gagner son quintet au mois d'août à Deauville. Donc il faut la suivre, à mon avis, c'est un abonnement.
Ouais, Guillaume, j'en profite pour simplement dire que j'ai eu Stéphane Vatel au téléphone là pour le quintet dans le Parisien. Très confiant avec Sans Peur, et il conseille aux lecteurs du Parisien et aux parieurs d'attendre pour sa deuxième pensionnaire. Jasmine Alda, dans 3 semaines à Deauville sur la PSF.
Est-ce que tu penses que Sans Peur va manquer pour dimanche, ou elle est vraiment au top, ou ça va pas la mieux encore dans 3 semaines?
Je suis pas Deauvillé, mais en tout cas j'ai senti beaucoup beaucoup de confiance dans les propos de Stéphane Vatel.
Ouais.
De la même façon, j'ai senti vraiment beaucoup plus de retenue concernant Jasmine Alda, dont l'objectif sera vraiment dans 3 semaines.
Ton cheval Alim.
Eh bien, il y a David Smaga qui possède deux bonnes chances dans cette épreuve, mais je vais tenter un nouveau coup de poker avec le numéro 13, Sao Paulo Menina, qui reste certes sur des performances décevantes, mais je crois que si David Smaga insiste dans ce genre d'épreuve, ce n'est pas par hasard. Il m'a notamment expliqué que à chaque fois il y avait des petites excuses, des petits pépins de santé ou des problèmes de parcours pour un quintet, notamment le dimanche où le quintet il y a toujours cette petite tirelire d'1 million d'euros supplémentaires. Il faut faire attention et la mettre en bout de combinaison.
Et Fred Zermati pour terminer.
Bah écoute, moi je vais prendre le numéro 16, Santorina, qui traverse une période de forme euphorique. Elle monte de catégorie certes, mais elle est associée à un jockey que j'aime beaucoup dans les petits poids, c'est Eddy Ardoin, et je pense que sur la forme elle peut continuer sur sa lancée.
Très bien, eh bien on va donner tous nos choix et même des infos pour dans 3 semaines à Deauville. Voilà pour les courses RMC, on remercie Alim Bouakas du Parisien,
salut,
Guillaume Luix d'Equidia, Fred Zermati que vous retrouvez tout à l'heure évidemment pour
avec
le commentaire
plaisir
du quintet à Anguin, évidemment, et toute évidemment la Dream Team RMC. Les pronos sont sur rmcsport.fr. Christophe Cessieux pour l'intégrale Tour qui commence dans quelques instants. Salut Christophe.
Effectivement, salut Flo, ça va partir, enfin c'est déjà parti depuis un moment dans cette étape. Il y a une grosse castagne en tête de peloton du Tour de France pour la 8e étape aujourd'hui entre Dole et la station des Rousses, 187 500 km. Nous sommes dans le Jura, ça monte, ça descend et ça bagarre. On va suivre ça évidemment dans un instant, tout comme les essais qualificatifs du Grand Prix d'Autriche de Formule 1. Bref, un beau programme tout au long de l'après-midi.